de louanges. Et je sais pas pour ceux qui sont, pour ceux qui l'ont déjà vécu, mais moi ça m'est souvent arrivé, c'est que quand on prépare une prédication, régulièrement, le temps de louange est souvent en lien avec ce qu'on partage. Et c'est marrant parce que je vais beaucoup parler de la mort et la résurrection de Jésus. Et ce beau chant qu'on a chanté à la fin, là, à jamais il est ressuscité. Magnifique. Donc comme a dit Mathieu, on continue notre série de disciples en 3D. Dieu nous a vraiment parlé, mais depuis qu'on a implanté cette église, qu'on ne cherche pas à avoir de nouveaux convertis. On ne veut pas simplement des personnes qui rencontrent Dieu. On est appelé à former des disciples. Jésus a dit, allez et faites des nations des disciples. Annoncez-leur tout ce que je vous ai annoncé. Et Jésus a dit aussi, voici, je vous envoie. Allez, guérissez les malades, chassez les démons, ressuscitez les morts. Enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. Et c'est ça qu'on est appelé à faire, c'est faire des disciples. Parce que si simplement on rencontre Dieu que c'est un petit feu de paille, et bien dès qu'arrivent les soucis de la vie, dès que c'est un peu compliqué, et bien ce feu, il s'éteint. Mais quand on est disciple, quand nos racines sont vraiment enracinées, quand notre foi elle est enracinée en Dieu, que nos racines sont profondes, et bien le vent vient, hein, les enfants ils chantent souvent ce chant, et le vent tomba, et la pluie tomba. Il y a ce vent qui souffle, il y a cette tempête qui est là, mais l'arbre, il reste droit. Peut-être qu'il bouge un peu, mais il reste bien enraciné. Et c'est important de faire des disciples. Et c'est pour ça qu'on a senti qu'en ces débuts d'année, c'était important de revenir sur qu'est-ce que c'est qu'être un disciple de Jésus-Christ. Et c'est incroyable de déterminer, de réaliser que ce que nous croyons, ce que vous croyez aujourd'hui, va déterminer ce que vous pensez. Est-ce que vous allez être ? Je le répète, ce que nous croyons, c'est-à-dire que ce en quoi vous avez la foi, ce qui est pour vous des convictions, va déterminer ce que vous serez et ce que vous ferez. Et c'est pour ça que je veux vraiment parler sur notre foi et sur ce que le Seigneur nous appelle à croire et à saisir par la foi. Et je vais revenir sur des fondamentaux. Et l'un des premiers fondamentaux, c'est que nous étions morts sans Dieu. Et c'est incroyable, justement, je trouve que la louange, moi, ça m'a reparlé encore sur, vraiment, avant de dire que Jésus est ressuscité, avant de dire que Jésus est venu sur la terre, c'est important de réaliser qu'est-ce que Jésus a fait. Non, pardon, pour vraiment prendre conscience de ce que Jésus a fait, il faut réaliser dans quelles conditions nous étions avant que Jésus arrive. Et parfois, enfin moi en tout cas, j'ai grandi dans l'église, j'ai grandi dans une église où on enseignait beaucoup la grâce et merci. C'est tellement énorme, quels fondamentaux pour moi de réaliser cette grâce-là. Mais pour réaliser pleinement la grâce de Dieu, qu'est-ce que Jésus a fait, il faut réaliser, mais en fait, pourquoi il est venu en fait. Ok, il m'a donné la vie éternelle, c'est Jean 3,16. Ok, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin qu'on ne périsse point, mais... Oui, mais pourquoi j'ai pas tout compris. Et c'est vrai que moi, j'ai grandi un peu avec cette foi d'enfant, de dire, bah, Seigneur, je suis sous cette grâce, mais sans vraiment, moi en tout cas personnellement, réaliser, mais dire, mais attends, j'étais mort. C'est-à-dire que j'étais séparé de Dieu à jamais. À jamais. Et je le lis dans Éphésiens 2, verset 1. Autrefois, vous étiez mort à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises. C'est fort, hein. Des fois la Bible, j'aime parce que ça ne passe pas par quatre chemins. Je répète, par les actes que nous commettions avant, nous nous conformions alors à la manière de vivre de celle de ce monde et nous suivions le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. Parce que Dieu a dit « rien d'impur en ma présence » et parce que le péché, c'était notre nature, c'était notre ancienne nature, nous ne pouvions pas demeurer avec Dieu. Mais Dieu est riche en bonté. Ouf, merci Seigneur. Aussi à cause de son grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par notre union avec Jésus-Christ. Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Il a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre qu'on aurait accompli. Personne n'a donc raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, juste à Dieu. C'est par notre union avec le Christ Jésus. Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Hein, je le redis, Éphésiens 2, versets 1 à 10. Il faut réaliser que sans Dieu, depuis la chute lors d'Adam et Ève, tout homme, toute femme était privé de la gloire de Dieu et était pécheur. Parce que comme je l'ai dit, Dieu est saint, Dieu est parfait et il ne pouvait pas demeurer en sa présence une once de péché, une once de mal. Dieu est parfait, il est tout bien, 100% parfait. Et on était tous privés de la gloire de Dieu. Et à cause de nos péchés, pire que ça, non seulement nous étions privés de la gloire de Dieu, mais nous tombions dans le jugement de Dieu. Parce que le salaire du péché, et je le dis, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort spirituelle, mais la mort physique aussi, c'est la mort. Et quand on ne réalise pas assez ça, ben en fait, on dit, bon, ben ouais, super, Jésus est venu, il est mort à la croix, peu cher, mais on ne réalise pas en fait la profondeur de ce que Jésus a fait. Il s'est fait malédiction pour nous, il s'est fait malédiction pour toi, pour moi. Il a pris à la croix nos maladies, nos infirmités, nos péchés, nos injustices, tout le mal qu'on a fait. Il s'est chargé sur ses épaules de tout le mal que vous et moi avons pu faire afin qu'on soit libéré, afin qu'on hérite de cette liberté et que cette relation avec Dieu soit rétablie. Et c'est important, je trouve, dans notre vie de disciple, de commencer avec ça et de le réaliser, que nous avons été sauvés par grâce. C'est pas quelque chose que nous, comme l'a dit la parole, que nous méritions. Peut-être que certains d'entre vous, et je le souhaite, vous faites des œuvres bonnes. Peut-être que même avant que vous connaissiez Dieu, déjà peut-être que vous étiez engagé dans de l'humanitaire, peut-être que vous aidiez les pauvres, et c'est bien. Mais c'est pas parce que vous avez fait ces choses-là, c'est pas parce que vous avez été déjà avant que vous rencontriez Dieu, vous étiez des bons parents, que vous essayiez d'être une bonne personne. C'est pas ça qui vous a justifié. C'est pas ça qui vous a sauvé. Parce que même ça ne suffisait pas pour être accepté et que cette relation avec Dieu soit rétablie. C'est parce que Jésus s'est donné en rançon pour vous, pour moi, que nous héritons de cette vie éternelle, que nous avons accès à son sanctuaire, accès à sa présence, accès à cette grâce. C'est par Jésus seul. Et il ne faut pas que nous oublions ça, même nous qui, ben voilà, pour ceux qui ont accepté Jésus, pour ceux qui vivent vraiment cette grâce, rappelons-nous toujours ça, que même ce n'est pas nos œuvres bonnes qui nous justifient, c'est Dieu qui nous justifie, c'est lui qui nous qualifie. Et ça, c'est un fondement, c'est un roc qui est inébranlable, mais qui est tellement important, parce que ça nous préserve de l'orgueil, les amis. Parce qu'on peut être que humble, on peut juste dire, Seigneur, mais merci, merci Seigneur de t'être juste attaché à moi, de m'avoir aimé le premier et de t'être donné pour moi. C'est vraiment juste par ta grâce, merci de m'avoir aimé, pour qui je suis, c'est lui qui m'a créé et c'est lui qui est venu me chercher du fond de la fosse. Et peut-être que beaucoup d'entre vous l'avez vu, mais moi, il y a quelques années, je pense bientôt 10 ans peut-être, mais j'avais vu au cinéma La Passion du Christ que Mel Gibson avait fait, qui c'est vrai est un peu, comme certains diraient, trash ou un peu violent. Mais moi, d'un coup, je me rappelle, j'étais resté assis dans ce cinéma, plein de larmes, en train de pleurer. Parce que d'un coup, j'ai réalisé quand je voyais ce Jésus fouetter. Alors je sais que les images sont peut-être un peu gore, mais quand on voit ce fouet qui tape Jésus et qu'il y a du sang qui... Voilà, j'ai dit, mais c'est vraiment, on t'a fait ça. Je le lisais, mais de le réaliser, je disais, mais Seigneur, c'est pour moi que tu as souffert, c'est pour moi que ton sang a coulé, c'est pour moi, Seigneur, que tu t'es donné, c'est pour moi qu'on t'a fouetté, c'est pour moi qu'on t'a cloué sur une croix. Et d'un coup, j'ai réalisé, je dis, mais pourquoi? Pourquoi, Seigneur, tu as donné ta vie, toi qui étais parfait, tu étais bien là-haut, tout était parfait, c'était Éden, c'était, y avait là-bas au ciel, il n'y a pas de mort, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus rien, il n'y a plus de souffrance. Et tu as accepté de t'humilier et de te faire homme pour venir me sauver moi. Mais waouh, et j'ai réalisé ça et ça fait du bien et on a besoin de re-réaliser ça fréquemment. Et je vous invite vraiment, si tu te sens, si tu as l'impression d'avoir un peu galvaniser ça, d'avoir perdu un peu cette profondeur-là. J'ai mis des fois, reviens à la croix, rappelle-toi comment tu étais avant, quelle était ta vie et ce que Jésus a fait pour toi. C'est tellement important. Nous étions morts sans Dieu. Nous étions morts, mais il a envoyé son Fils unique, parce qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il hérite de la vie éternelle. Et si tu ne crois pas encore au Seigneur Jésus ce matin, si pour toi c'est tout nouveau, sache-le, il n'y a pas besoin de faire une seule œuvre, il n'y a pas besoin de faire tout un rituel, il y a juste besoin de reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est venu, qu'il est mort à la croix pour tes péchés et qu'il est ressuscité aujourd'hui et qu'il veut demeurer dans ta vie. Et si tu ne le connais pas encore, je t'invite en fin de prédication, lorsqu'on aura terminé, viens me voir parce que Jésus veut te rencontrer. Jésus veut te rencontrer et il veut te donner la vie éternelle. Il veut que des fleuves d'eau vive coulent en toi. Deuxièmement, notre identité, elle est transformée. Notre identité, elle est transformée. Et oui, notre identité, souvent, quand on dit, toi, dis-moi un peu, qui es-tu ? Souvent, on va parler de notre arrière-plan familial, de notre éducation, de nos frères et sœurs, de notre ethnie, donc de là où on habite, de nos dons. Mais parce que nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort à la croix pour nos péchés et ressuscité le troisième jour, nous héritons gratuitement d'une nouvelle identité, celle d'être appelé enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Nous sommes fils et filles de Dieu. Et ça, les amis, c'est la base de tout. Même si tu parlais toutes les langues de la terre, même si tu donnais tout ton argent aux pauvres, si tu n'as pas réalisé que cet amour t'appelle fils, que Dieu est amour, hein, vous savez, Dieu est amour, donc c'est pour ça que je personnifie Dieu par l'amour. Dieu est amour, cet amour, il t'appelle fils, il t'appelle fille. Et si tu fais tout ça pour ta propre gloire, si même tu brûlais vraiment pour ton ami, pour quelqu'un, mais simplement pour ta propre gloire, je veux te dire que cela ne te sert à rien. Même si tu donnes tout ton argent, juste pour toi, cela ne sert à rien. C'est l'amour qui change tout. C'est l'amour, et cet amour, vraiment, dit de nous, vraiment l'amour de Dieu dit de nous que nous sommes enfants, que nous sommes fils et filles de Dieu. Et ça, c'est une base pour nous en tant que disciples, parce que ça a tellement de conséquences. Si nous marchons comme des orphelins, nous allons agir comme des orphelins. Si nous marchons comme des fils et des filles de Dieu, nous allons agir et produire des fruits de fils et de filles de Dieu. L'Esprit, donc dans Romains 8, verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Nous sommes héritiers, c'est extraordinaire. Toutes les promesses, la destinée qui était donnée à Jésus, eh bien, elle est aussi pour nous, c'est extraordinaire. Jésus, c'est comme le dit la parole, c'est notre premier frère, c'est le premier d'entre nous. Mais nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous héritons avec Jésus de toutes ses promesses. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Dieu nous prépare une place là-haut, c'est extraordinaire. Et nous sommes héritiers, nous sommes fils et filles de Dieu. Et c'est par cette foi que nous comprenons que nous sommes radicalement aimés et que Dieu nous définit comme moins, marchant avec autorité, adopté dans sa famille, ambassadeur de son amour, citoyen du ciel. Que c'est beau, les amis, mais que c'est beau de réaliser ça, cette identité. Et parfois, cette identité, eh ben, c'est céleste, elle est difficile à réaliser, surtout pour ceux qui peut-être ont eu un papa, une maman qui n'était pas là, qui vous ont abandonné, qui vous ont peut-être maltraité, qui vous ont tapé, qui vous ont trahi, qui vous ont bafoué, C'est sûr que peut-être que nos parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient, mais parfois, et pour je pense beaucoup, peut-être même tous, eh ben, c'est difficile des fois de vraiment comprendre l'image du père, rien que l'image du père. Si tu n'as pas eu de père, peut-être que c'est difficile de comprendre cette image-là. Et c'est pour ça que Dieu veut venir guérir ton cœur, veut vraiment venir guérir ce que peut-être dans ce monde physique a été difficile pour se révéler à toi comme un nouveau père. Comme un père parfait sur qui tu peux compter, sur quelqu'un qui ne te trahira jamais. Dieu ne te trahira jamais. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce n'est pas un homme ou une femme pour te trahir. Il est parfait. Et il te dit, viens mon enfant, viens dans mes bras d'amour. Viens recevoir l'amour du Père. Et c'est important, les amis, d'expérimenter cet amour, surtout pour ceux ou celles qui n'ont jamais expérimenté cet amour. C'est important de le recevoir. C'est une chose de le comprendre ici, mais c'est une autre chose que ça descende et que ça touche nos cœurs. Et c'est pour ça que nous organisons ces conférences du cœur du Père. On en a fait deux et on veut continuer parce que nous, les premiers, moi le premier, les amis, j'ai été touché. Quand on était en Angleterre pendant ces 2 années, pourtant, j'ai eu vraiment le privilège d'avoir un père terrestre qui était aimant, qui, dans nos circonstances très difficiles où on a perdu notre mère, a tout fait pour nous aimer, mais lui-même était imparfait. Et j'ai eu des révélations là-bas encore de l'amour du Père. Ayant perdu ma mère et mes frères, on s'est toujours donné cette promesse qu'on se battrait, qu'on aurait la niaque, vraiment pour jamais se laisser démonter, même si, entre guillemets, on ne sait pas exactement quoi, mais il nous a volé notre mère, on se battra. Et c'est un bon côté parce qu'on s'est toujours battu dans nos études, on s'est battu vraiment pour vivre, on s'est battu contre la maladie, on s'est battu dans notre désespoir. Mais ça, en même temps, le contre-coup de ça, c'est que ça a mené un peu, cet esprit de performance. Toujours, moi, j'avais besoin d'être le premier, j'avais besoin de réussir. Quand je me rappelle en cours, les notes, elles tombaient. Pour moi, je m'en foutais d'avoir 15, 13, 12, 20. Je voulais être le premier. Et donc, j'attendais. Et si j'étais le deuxième, le troisième ou le quatrième, même si j'avais eu 20, j'étais déçu parce que je voulais être le premier. Et une fois de plus, il y avait un côté bien. On voulait toujours le meilleur. Mais il y avait ce côté où je me sentais aimé que quand je réussissais. Je me sentais aimé quand on disait « Bravo Olivier, c'est bien ce que tu as fait ». Mais quand je fautais, comme chacun d'entre nous, quand je faisais du mal, quand je blessais quelqu'un et qu'on venait me le dire, j'étais ouvert pour l'entendre, mais quand je me retrouvais seul, et d'un coup, j'avais ces larmes qui venaient et je me sentais souvent rejeté. Je disais, mais t'es nul, Olivier. Mais pourquoi tu as dit ça? Mais pourquoi tu as fait ça? Et d'un coup, c'était disproportionné alors que la personne venait me le dire sans amertume ou sans méchanceté. Mais moi, je me sentais un moins que rien. Pourquoi? Parce que mon identité était basée sur la performance. C'était quand je réussissais, j'étais aimé. Quand je réussissais pas, j'étais mal aimé et j'étais rejeté. Et ça, c'est un mensonge que Satan avait mis dans mon esprit, dans mon cœur, dans mes pensées, et qui m'a mené à me sentir des fois rejeté de Dieu et rejeté des hommes. Et c'est faux, je suis aimé de Dieu. Et donc, en Angleterre, j'ai dû me repentir de ça. J'ai dû dire, Seigneur, je renonce à cet esprit de performance, je renonce, Seigneur, à baser mon identité sur la performance. Et ça m'a tellement touché, et on le dit souvent lors de nos prêches, mais c'est tellement vrai quand Jésus a été baptisé, alors qu'il n'avait encore rien fait. Le Père, là, cette voix du ciel qui s'est fait entendre. Voici mon Fils, en qui je mets toute mon affection, en qui je mets tout mon plaisir. Et c'était une révélation pour moi. Seigneur, waouh, tu mets en moi tout ton plaisir, alors que je fais rien, alors même si je reste assis, tu m'aimes. Et il y a comme quelque chose qui, il y a comme un shift, comme on dit en anglais, il y a un changement qui s'est opéré en moi à partir de ce moment-là, où je savais que j'étais aimé, non plus pour ce que je faisais ou ce que je ne faisais pas, mais pour qui j'étais. Et c'est ça. Et c'est à ça que Dieu nous appelle, vous appelle. Si tu n'en es pas là encore, Dieu veut toucher ton cœur ce matin. Il veut se révéler comme un père, comme une mère pour toi. Parce qu'il est notre père et notre mère à la fois. Et quand on se sent fils, quand on se sent fille, ça amène plusieurs choses. Je ne peux pas tout dire, mais 3 choses qui m'ont vraiment parlé. Nous permet de tout faire d'une place de repos, car nous sommes convaincus que nous sommes aimés pour qui nous sommes et non pour ce que nous faisons. Et la continuité de mon témoignage d'Angleterre, c'est que, pareil, ça a changé, ça a tout changé. Comme vous savez, je conduis la louange, mais c'est vrai que parfois, comme je voulais un peu manipuler, entre guillemets, le Saint-Esprit, je voulais, voilà, hey, tu tombes. Et en fait, depuis l'Angleterre, vraiment, Dieu m'a vraiment parlé de dire, non, c'est pas toi qui agis, c'est moi qui agis. Alors certes, je t'utilise, certes, il nous utilise, mais il agit au travers de nous. Et avec ma chère épouse qui n'est pas là avec nous ce matin et que je bénis, notre fils Gabriel est malade, mais elle pense à vous et puis elle prie pour nous. Et elle m'a rappelé ça. Olive, fais vraiment tout d'une place de repos. Quand tu conduis la louange, fais d'une place de repos. Et j'ai appris ça, à attendre des fois. Des fois, je n'ai pas de chant, je n'ai pas de parole, juste d'attendre et de laisser l'esprit faire. Et c'est extraordinaire. Quand on laisse le Saint-Esprit faire, quand on fait tout d'une place de repos, quand on est assis dans notre identité de fils et de fille, ça donne l'opportunité à Dieu d'agir de façon encore plus puissante. C'est extraordinaire. Quand on est fils et fille, on peut faire tout faire d'une place de repos. Ça nous permet de promouvoir ceux qui sont à côté de nous sans avoir peur d'être délaissés et rejetés. Et ça, c'est extraordinaire. L'un des plus beaux fruits, pour moi, de notre identité de fils et de fille, c'est que j'ai plus peur de voir mon frère ou ma sœur aller plus vite que moi, aller plus loin que moi. Et on a tellement vu, malheureusement, des pasteurs, mais même des frères et sœurs, ou des employeurs, ou peu importe qui, parce qu'un salarié ou parce qu'un frère ou sœur était plus talentueux que lui, essayer de l'écraser, essayer de dire oui, d'accord, et essayer de ne pas lui donner les infos qu'il fallait juste pour qu'il tombe et pour qu'il ne puisse pas le dépasser, parce que ça fait peur. Ça fait peur lorsqu'on a quelqu'un qui est à côté de nous et qui prend la place et qui est plus doué que nous, peut-être techniquement ou dans notre travail. Et donc, on veut l'étouffer pour surtout qu'il ne nous passe pas devant. Et ça, c'est une réaction d'orphelin. Mais la réaction d'un fils ou d'une fille, c'est de promouvoir, c'est d'encourager. Parce que même si mon voisin va plus loin que moi, eh bien, je vais me réjouir. Parce que surtout, dans le cadre, du royaume de Dieu, on a tous un même but. Si mon frère Samuel, il y a une plus grande onction, si vraiment il y a un vent de l'esprit qui souffle au travers de lui, au lieu de moi, mais amen, amen, parce que ce qui compte, ce n'est pas la gloire d'Olivier Sarkis, c'est que la gloire de Dieu se manifeste dans nos vies. On est tous en marche pour que le royaume et la justice de Dieu se manifestent. Et on a besoin de s'encourager. On a besoin de se promouvoir les uns les autres, non pas pour qu'on tombe dans l'orgueil, pour qu'on tombe dans le ouais, bravo. Non, c'est parce que pour nous amener encore plus loin, c'est à ça que Dieu nous appelle. Et je me souviens, vous l'avez déjà vu ici, mais on avait Gabriel Morin qui est déjà venu faire la louange ici il y a quelques années. Il y a Bill Johnson qui était venu faire qui était venu à Alès, près de Nîmes. Il y avait eu 2000 personnes, donc qui me semble. Et mon cher ami Gabriel avait été demandé pour faire la louange. Et quand il m'a partagé ça, parce qu'on est très proches, c'est pour moi c'est comme un fils spirituel. Je vous avoue que ma première réaction, ça a été putain, mais pourquoi on me demande pas à moi? Mais très vite, c'est ça qui est beau, c'est que c'était après tout ce que j'avais vécu en Angleterre, et j'ai senti vraiment que le Seigneur m'a dit Olivier, c'est pas parce que tu vas pas conduire la louange pour Bill Johnson ou pour d'autres conférences que tu es rejeté ou que je vais pas t'utiliser. Réjouis-toi pour ton fils, réjouis-toi pour ton ami, réjouis-toi pour ce que Dieu fait sur Alès et dans les environs. Et de suite, j'ai senti, je me suis repenti de ça, et après, il y a une joie qui est venue, et je l'ai encouragé. Je lui ai dit, eh bien, tu sais quoi, je suis content pour toi. Donc au final, il n'a pas fait la louange, mais quand il m'avait dit ça, je me rappelle, j'ai dit, ouais, c'est chouette, c'est extraordinaire, parce que nous sommes appelés à nous encourager, et que si ceux qui ont conduit la louange à Bill Johnson ont amené la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Mais amen, c'est pour ça que je veux me réjouir, parce que si mes paroles sont conformes à ce que je vis, eh bien, ça veut dire que si je dis Seigneur, ta gloire d'abord, ça veut dire que je suis prêt à me mettre de côté pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et je nous encourage dans notre vie de disciples, c'est tellement important. Les amis, ça fait tellement mal, et je sais que beaucoup ici l'ont vécu, je l'ai vécu aussi. N'écrasons pas ceux qui sont autour de nous. N'écrasons pas dans le travail ou même dans l'église ceux qui peut-être paraissent aller plus vite, qui sont là que depuis 6 mois et qui d'un coup sont propulsés. Amen, réjouissons-nous, réjouissons, encourageons les talents, encourageons ceux que Dieu veut utiliser. Parce qu'on est tous dans la même barque, tous dans le même but, que le règne de Dieu se manifeste. Amen. Quand on est fils et fille de Dieu, ça nous donne aussi l'opportunité de prendre des risques, d'être courageux. Plus besoin de perdre du temps avec les « mais qu'en dira-t-on », avec nos peurs, avec « oui, mais j'ai peur de me tromper ». Non, même si tu te trompes, tu sais que tu es aimé. Donc, tu peux y aller. Tu peux y aller. Tu donnes une parole de connaissance, tu prends des risques. Comme l'a fait Kat, tu proposes de prier. Non, je veux pas. C'est pas grave. Eh bien, écoute, comme le dit le Seigneur, tu secoues tes pieds et tu vas voir quelqu'un d'autre. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est que tu es aimé de Dieu. Et trop de chrétiens, trop d'entre nous, parfois, sont sclérosés, sont vraiment atterrés par nos peurs. Oui, mais tu sais, j'ai peur. Peu importe ce que les autres pensent. Va avec la force que tu as. Si le Saint-Esprit te dit, va là-bas, c'est qu'il va t'équiper et qu'il va te donner tout ce que tu auras besoin pour bénir autour de toi. Nous sommes appelés à être des lumières. On ne met pas, comme le dit la parole, une lumière là, toute. Non, on la met dans, je ne sais plus comment ils appellent ça, merci, un boisseau, pour que ça éclaire et que ça porte vraiment, que cette lumière puisse se manifester. Et c'est à ça que nous sommes appelés, c'est être des changeurs d'atmosphère là où le Seigneur nous appelle. Et pour vous encourager rapidement, eh bien, lors des derniers baptêmes, j'ai eu le privilège de pouvoir donner une parole de connaissance. J'aime ça, On en rigole souvent avec mes amis proches, mais moi, voilà, quand on est dans des endroits comme ça, je dis, Seigneur, c'est l'occasion, il y a plein de personnes qui ne te connaissent pas encore, je veux donner des paroles. Et des fois, je me trompe, et il se trouve que cette fois-ci, ben voilà, j'ai pu donner une parole à une amie qui était invitée et qui était là. Et le Seigneur m'a donné la grâce de pouvoir dévoiler son cœur, et elle s'est mise à pleurer, et elle a été touchée par la grâce de Dieu. Et je lui dis, ben, tu vois, c'est que Dieu t'aime. S'il m'a donné ces pensées-là, ce n'est pas moi, je ne suis ni guérisseur, je ne suis ni je ne sais pas quoi, c'est simplement Dieu qui agit au travers de moi. Et cette personne, j'ai pu prier pour elle, j'ai pu proclamer l'espérance, j'ai pu proclamer vraiment que le Seigneur venait changer son deuil en allégresse. Elle passait par des moments de deuil difficiles, et j'ai senti qu'il y avait un sourire qui était venu sur son visage ensuite. Et d'autres fois aussi, pour vous encourager, pour ceux qui n'osent pas, ben, combien de fois j'ai donné aussi des paroles de connaissance et je me suis trompé. Je dis, alors, est-ce que ça te parle? Franchement, non. Bon, ben c'est pas grave. C'est pas grave. Eh ben, plus tu vas aiguiser tes dons, plus tu vas sortir de ta barque, et plus tu vas être sensible à l'esprit, et plus tu vas être précis dans ce que Dieu va te donner. Mais celui qui n'ose pas, celui qui ne commence rien, je suis désolé de vous le dire, si tu ne mets pas en pratique les dons que Dieu t'a donnés, tu es comme cette parabole des talents, tu enfouis, et le Seigneur, je m'excuse, mais je pense qu'il ne sera pas content. Même s'il t'aimera, même s'il ne va pas te punir, mais c'est simplement que tu passes à côté de choses extraordinaires, parce que Dieu t'a donné des dons et des talents pour que tu les mettes à profit et pour que tu multiplies ce qu'il t'a donné. Et comme cette parabole-là, si tu avais 5 talents, il va t'en donner 10, et puis 20, et puis il va multiplier tout ce qu'il t'a donné. Alors, je vous encourage, les amis, osons, avec même le peu de dons peut-être que tu as, peut-être que tu te sens comme le dernier des derniers, mais même le dernier des derniers, je suis sûr, qui lui a donné plein de dons pour les exercer et être une bénédiction pour ceux qui sont autour de lui. Alors, allons-y, les amis. 3, nous sommes saints et non pécheurs. On en a déjà parlé, mais c'est tellement important, c'est un fondamental pour notre vie de disciple. Quand Jésus est mort à la croix, toute personne ayant accepté Jésus comme sauveur et seigneur de sa vie est mort avec lui. Et donc nous sommes morts au péché et nous avons été ressuscités, donc nous sommes vivants avec Christ. Je vous invite à lire Romains 6, verset 6, tellement fort, tellement puissant. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec le Christ, afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance et que nous ne servions plus le péché comme des esclaves. Car celui qui est mort a été déclaré juste, il n'a plus à répondre du péché. Or, écoutez bien, c'est puissant. Puisque nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Car nous savons que le Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, la mort n'a plus de pouvoir sur nous, les amis. Il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Mais à présent, il est vivant et il vit pour Dieu. Ainsi, vous aussi, nous aussi, les amis, considérons-nous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Amen. Cela veut dire que nous ne sommes plus des pécheurs qui de temps en temps faisons des bonnes choses, faisons des bonnes béas, mais nous sommes saints. Nous sommes saints et nous sommes des saints qui péchons occasionnellement, qui péchons encore. Mais nous sommes dans cette marche, dans la sainteté, nous sommes dans cette marche, mais nous sommes saints. C'est notre nouvelle nature. 2 Corinthiens 5, ainsi celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici ce qui est nouveau est déjà là. Notre nature pécheresse, elle n'est plus là. Depuis que Jésus est venu, depuis qu'il nous a sauvés vraiment de la mort, eh bien, nous avons cette nouvelle nature. Nous sommes saints. Cela veut dire que nous combattons le péché, non pas en essayant péniblement de ne plus pécher, mais en reconnaissant en premier lieu que le péché ne fait plus partie de notre nature, que la sainteté est notre nouvelle nature. Et ça change tout, les amis. Ça change tout, c'est encore un point tellement fort de réaliser, de dire, oh, Seigneur, pauvre pécheur que je suis. Non, tu étais pécheur, mais la grâce de Dieu t'a touché, la grâce de Dieu t'a transformé et il t'a donné cette nouvelle nature, tu es saint. Et je me souviens, c'était il y a un an et demi, étant saint, eh bien, vous savez, parce que parfois, certains me diront, mais oui, mais alors si je suis saint, pourquoi des fois, c'est plus fort que moi, je pêche encore? C'est parce que parfois, on n'a peut-être pas encore laissé tous les compartiments à la lumière de Dieu. Et Dieu, c'est un gentleman, c'est que tout ce que tu veux laisser caché, Dieu, je ne sais pas si c'est exprès ou si vraiment il ne peut pas, parce qu'il est tout, parce que bien sûr, il est souverain, mais ce que j'ai pu expérimenter, c'est que tout ce qui reste caché, eh ben ça, Dieu ne peut pas pleinement agir. Et dès que ça vient à la lumière, ça permet à Dieu d'agir. Et moi, je me souviens, il y a quelques années, je me rendais compte que c'était plus fort que moi. J'avais tendance à mentir quand j'étais face à des personnes en position d'autorité et particulièrement à mes employeurs. Vous savez, je travaille encore, mais je suis dans un travail très stressé où il faut envoyer les déclarations en temps et en heure, sinon il y a des majorations, tout ça. Et c'était plus fort que moi quand mon employeur, des fois, pris par le temps où j'avais oublié, me disait « Mais tu l'as envoyé la déclaration fiscale ?» C'était plus fort que moi. Je disais « Oui !» Mais je ne l'avais pas fait, mais c'était plus fort que moi. Et ça me posait souci. Et j'ai pu en parler à des frères et sœurs et puis leur confesser ça, leur dire voilà, c'est pas normal, c'est plus fort que moi, je n'arrive pas à le maîtriser. Mais dès qu'il y a une pression, dès que je risque un jugement ou que je risque d'être rétrogradé, j'ai cette peur et j'ai tendance à mentir, c'est plus fort que moi. Et je me suis repenti avec des frères et sœurs, j'ai renoncé à ça, et depuis, les amis, je peux vous dire que j'ai été transformé. Parce que ce n'est plus ma nature. Ce n'était pas ma nature de faire ça. Ma nature, c'est de dire la vérité. Peu que importe ce qui m'en coûte, je veux dire la vérité. Dans l'amour, je veux dire la vérité. Et rapidement, qu'est-ce qui caractérise magnifiquement ça? C'est le baptême. Le baptême, et on a vu encore récemment des baptêmes, nous sommes morts avec Christ et ressuscités avec lui. Colossiens 2, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. Si tu crois au Seigneur Jésus et si tu es baptisé, si tu es mort avec lui et ressuscité avec lui, tu hérites de la vie éternelle et tu as accès à toutes ces promesses, à cette vie extraordinaire, à cette vie transformée par l'Esprit de Dieu. Et c'est mon quatrième point, Jésus dit à Nicodème, lorsqu'il est venu le voir pour en savoir plus sur qui il était dans Jean 3, « Vraiment, je te l'assure, Nicodème, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Nous qui sommes nés de nouveau, si tu as accepté Jésus, si tu es né de nouveau, tu es animé par l'esprit. » Et l'une des caractéristiques les plus fortes encore d'un disciple de Christ, c'est ceux qui ont été transformés et qui sont encore transformés par la puissance et le travail du Saint-Esprit. On ne peut pas agir sans le Saint-Esprit. Jésus est monté au ciel et il a envoyé le Saint-Esprit et il a dit « Attendez, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins jusqu'en Samarie, Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et on a besoin d'être rempli, d'être animé par l'Esprit de Dieu. On a besoin de sans cesse revenir à cette source-là. Sans ça, on a peur. Mais quand on est rempli de l'Esprit de Dieu, j'aime le dire, on se sent invincible. Pas qu'on l'est, mais c'est qu'animé par l'Esprit, il y a un courage qui vient, il y a une foi qui est là. Et on a besoin d'être sans arrêt, revenir à la source et être rempli de cet Esprit. Recevoir le Saint-Esprit, c'est l'expérience d'être rempli avec la puissance et la vie de Dieu, afin d'amener son royaume et sa justice partout où nous allons. Cela se produit à chaque fois que nous demandons à Dieu de nous remplir. Oui, le Saint-Esprit aime souffler la vie en nous en abondance, afin que son fruit se manifeste dans nos vies. Alors les amis, lâchons prise et laissons-le agir comme il le veut, car je n'ai jamais été autant rempli et touché par le Saint-Esprit depuis que j'ai lâché prise. Quand tu lâches prise, ça donne l'opportunité au Saint-Esprit de te toucher. Peut-être qu'il ne viendra pas, et j'en ai parlé encore récemment avec des frères et sœurs, peut-être qu'il ne viendra pas comme tu l'attends, peut-être que des fois ça dérange, mais laisse le Saint-Esprit agir en toi. Et pareil, je reviens, je suis désolé, mais souvent à l'Angleterre, parce que ça a été tellement deux années qui ont transformé ma vie, j'ai dû lâcher prise. Parce que moi, je voulais que Dieu vienne comme ça et comme ça. Et j'étais comme les Juifs qui, à l'époque, ont crucifié Jésus. Pourtant, ils attendaient le Messie, ils y croyaient, mais Jésus n'est pas venu comme ils pensaient. Et donc, ils l'ont rejeté. Et moi, de même, je rejetais une partie du Saint-Esprit parce qu'il ne venait pas, et ça ne me plaisait pas, c'était trop dérangeant, ça faisait trop de bruit. Et j'ai lâché prise. J'ai dit, Seigneur, viens comme tu le veux. Et c'est la plus belle prière, c'est la meilleure posture qu'on peut faire. Saint-Esprit, viens toucher ma vie comme tu le veux. Viens toucher ma vie comme tu le veux. Amen. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Galates 5. Et il n'y a plus d'excès de colère, de rivalité, de dissension, de division, l'envie. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. C'est ton ancienne nature, ça. Aujourd'hui, tu es animé par l'esprit. C'est l'amour, la joie, la paix, la douceur, la bienveillance, la patience. Amen. Qui a envie d'être rempli de l'Esprit de Dieu ce matin? Qui a envie, les amis, vous avez envie d'être baptisé à nouveau d'esprit et de feu? C'est ça que nous voulons demander. C'est ça que nous voulons demander. Seigneur, viens nous remplir. Et notre vie de disciple, c'est ça, nous sommes appelés à être constamment remplis, pas ivres de vin, pas ivres d'alcool, mais être ivres de l'Esprit, ivres de lui. Il ne te fera pas de mal. Il ne te fera pas de mal. Et j'aimerais juste t'inviter, comme je l'ai partagé, si tu sais que tu es passé un peu par là où je suis passé et que tu as du mal à lâcher prise, on t'a peut-être formaté, on t'a peut-être... c'est difficile pour toi de sortir de certaines cases. Vraiment, je t'invite peut-être à faire ce pas ce matin et à dire, Seigneur, je veux ça, je veux ça, je veux être constamment enivré de ton esprit, je veux être constamment rempli de toi. Et aujourd'hui encore, je choisis, Seigneur, de lâcher prise. Lâche prise avec tes raisonnements, lâche prise avec tes pensées, lâche prise avec ce qui te bouscule. Mais fais confiance à Dieu qui est un gentleman. Il t'aime et il ne te fera jamais de mal parce qu'il t'aime tellement. Alors tu peux lui faire confiance et tu peux te jeter dans cette rivière d'amour. Et si cette parole te parle, si tu as envie de plus, je t'invite juste à te lever. Ce que j'ai senti alors que je préparais ce temps que cet esprit voulait souffler de manière puissante, qui voulait se révéler à nouveau, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Si tu as soif de plus, si tu veux être rafraîchi à nouveau, si tu veux être à nouveau baptisé d'esprit et de feu, je t'invite à te lever et à te laisser toucher par le Seigneur. Parce qu'il est là, il est là et il aime toucher ses enfants. Oh Seigneur, vraiment.